Bonjour, cet épisode a été enregistré le 26 avril 2011. Architech est un podcast sur les sujets d'architecture en français. Les épisodes sont disponibles en audio mais également en vidéo. Et le lien de référence pour retrouver tout le matériel est à architech, architech.archimes.fr. Je suis Thomas Conté, architecte en système d'information dans la division DPE de Microsoft France.
Et je suis Benjamin Guilbertière, architecte en système d'information dans la même division.
Alors Benjamin, le sujet du jour, ce sont les applications métiers critiques.
Exactement. Mission Critical.
Mission Critical Application. Alors cet épisode fait toujours partie d'une série consacrée à différentes disciplines d'architecture. Cette série a pour but de présenter les sujets que l'on retrouve sur le site de référence Microsoft
www.archimes.fr. Voilà.
Et sur lequel vous trouverez les pages, les références vers les PowerPoint sur les différentes disciplines. Bon, Benjamin, qu'entend-on finalement par application métier critique? Enfin, le business critical, application, le terme, qu'est-ce qui dénote?
Alors, là, on est devant la page qui se retrouvera, comme d'habitude, sur le site MSDN, à terme. Et donc, on commence par une petite introduction, donc introduction habituelle sur... des endroits où on peut trouver les choses, donc missioncritical.archimes.fr où on retrouve cette page-là. Et puis une adresse email également et un forum, le forum LinkedIn habituel. Donc dans la page, on commence par une définition, par qu'est-ce qu'on entend par une application critique. Et les éléments importants, en fait, ce sont le fait que ces applications, si elles ont une interruption de service, ça impacte soit le chiffre d'affaires, soit l'image de marque de l'entreprise, soit la capacité à respecter des obligations réglementaires. Et bon, également, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des applications qui, en général, ont des exigences fortes en termes de dispo, de montée en charge, de performance, de sécurité, de manageabilité, de fiabilité, c'est-à-dire qu'on sait comment elles vont réagir. Donc des applications, entre guillemets, sans surprise.
Donc les applications qui sont au cœur du métier de l'entreprise, voire même que l'entreprise tourne avec cette application-là.
Exactement. Et donc ce sont des assets importants de l'entreprise, donc avec des cycles de vie assez longs, ce sont des investissements à plus de 10 ans en général. Et donc, comme exemple d'application, on va avoir, je sais pas, un système de réservation de compagnie aérienne. Cette application-là ne marche plus, la compagnie aérienne a quand même un problème, ne serait-ce que, par exemple, pour son image de marque. Ensuite, on a le système de billing, donc là, c'est de l'argent.
L'argent, c'est critique, généralement.
L'argent, c'est critique. Ouais. Et puis, système de prise de commande, même chose, argent. Et puis, après, il y a les éléments qui sont au cœur du système d'information, comme les ERP ou les CRM.
D'accord.
En général, également, il y a tout ce qui correspond à la vie de personnes.
Les hôpitaux, etc.
Donc, voilà. Donc, sur cette discipline, en fait, qu'est-ce qu'on va indiquer? Surtout, comment est-ce que Microsoft permet de mettre en place de telles applications et quels sont les outils qui permettent de faire ça? Donc, par rapport à ça, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on a, ce qu'on reconnaît habituellement, c'est que pour qu'une application soit disponible et quelles sont les caractéristiques qu'on a vues en haut, surtout en termes de disponibilité et de prédictibilité
en français.
Voilà. Il faut qu'il y ait ce triptyque, à savoir des personnes, des processus, de façon à ce que justement il y ait cette prédictibilité, maintenant que je sais le dire, et puis des technologies pour aider à mettre en place les processus, et puis également, ne serait-ce que pour implémenter les applications.
La technologie n'est pas suffisante pour qu'une application respecte les...
Exactement, il faut les trois, et donc le document est organisé suivant ce triptyque-là. Okay. Donc personne, technologie, process, c'est ce qu'on trouve dans le plan après, donc avec introduction, schéma synoptique, personne, processus, technologie.
Absolument.
PPT. Au niveau des personnes, donc là, la page, évidemment, elle va s'améliorer au fil du temps. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis tous les éléments. Mais en tout cas, au niveau des personnes, ce qu'on peut dire du point de vue de la plateforme Microsoft, c'est qu'on a un très grand écosystème de partenaires compétents sur la plateforme Microsoft. Par exemple, on pourra trouver un lien qui permet de voir comment trouver des partenaires sur telle ou telle technologie.
Absolument.
Et puis, l'éditeur a lui-même son entité de service, Microsoft Services, qui a une offre de stratégie, de conseil et de support. Donc là aussi, il y a un lien sur le site Microsoft Services qui donne un peu tous les liens là-dessus. Donc voilà.
On peut aussi citer peut-être les programmes de certification Microsoft
sur
les technologies.
Alors après, effectivement, il y a toutes les personnes qui travaillent sur la plateforme Microsoft, que ce soit des gens
des partenaires
de MCS, des partenaires ou les clients
même.
Peuvent eux-mêmes se certifier. Donc il y a des programmes de formation et de certification. Avec les MCP, Microsoft Certification Program, qui permettent justement de prouver en gros une connaissance
d'expertise sur les produits.
C'est ça. Ensuite, on passe à la partie processus. Les personnes, c'est plus rapide à décrire comme ça, mais c'est aussi...
C'est pas le plus simple, forcément.
C'est pas le plus simple, mais effectivement, c'est
important, on va dire. C'est la base.
À chaque fois, ce sont des éléments particuliers, effectivement. Donc, sur les processus, on a un certain nombre de processus. Dans l'industrie en général, et en particulier autour de la plateforme Microsoft, mais en général, il y a un lien assez fort entre ce qu'on a au niveau de la plateforme Microsoft et dans l'industrie. Donc j'ai mis deux grands chapitres, une partie sur la conception et la mise en œuvre des applications. Donc quand on est en train de développer une application, qu'est-ce qu'on a. Et puis également pour la gestion des services informatiques au sens utile du terme.
L'aspect opérationnel de la
plateforme. Voilà, plutôt l'exploitation. Donc là on va avoir utile et MOF. Donc sur la conception et la mise en œuvre des applications, on a MSF. Donc Microsoft Solution Framework, qui est un framework à la base pour décrire un peu comment est-ce qu'on va gérer la mise en place, la conception, jusqu'à la livraison et le cycle de vie de l'application. Et ces principes-là, en fait, peuvent être ensuite adaptés. Les équipes Visual Studio l'ont adapté sous deux formes, pour les méthodes agiles, et puis pour CMMI, qui est une méthodologie du marché qui, elle, est beaucoup plus formelle
et stricte, on va dire.
C'est ça. Donc là, on va avoir ces deux éléments-là. Et puis, évidemment, ces processus peuvent être adaptés en fonction du contexte, et même que ce soit, même si MMI propose de s'adapter, et encore plus agile, évidemment. Ensuite, j'ai indiqué également le fait qu'on a SDL, Security Development Lifecycle, qui est un processus que Microsoft suit lui-même, enfin comme pour MSF d'ailleurs, hein, que Microsoft suit lui-même pour ses propres produits, et qu'il publie, et qui permet de se préoccuper de la sécurité dès la conception de l'application. Donc dans le cas des applications Mission Critical, c'est vraiment fondamental de s'occuper de la sécurité au plus tôt. Et donc d'être capable de gérer ça. Ensuite, pour la partie Dynamics, donc avec ERP, CRM, les ERP et CRM de la gamme Dynamics, Microsoft, alors là en général, Microsoft intervient assez peu en direct, c'est souvent des partenaires qui mettent en place ces systèmes-là. Et Microsoft met à disposition des partenaires via PartnerSource, qui est un extranet pour les partenaires. La méthodologie, SureStep, donc qui donne tout un tas de guides pour la mise en place d'un ERP ou d'un CRM. T'es apparu.
Et voilà. Alors si vous êtes en audio, ça change pas grand chose, mais en vidéo, ça change tout.
Allez, tout de suite, là, on voit mieux.
Alors on en était au processus opérationnel.
Exactement, donc là on a ITIL et MOF. ITIL c'est IT Infrastructure Library, et MOF, Microsoft Operations Framework, tout en bas là-bas, il y a des abréviations avec
il y a un petit glossaire avec tous les
différents acronymes et leurs significations.
Il y en a des acronymes.
Il y en a quelques-uns. Donc sur ITIL, donc c'est une librairie qui contient tout un tas de bonnes pratiques éprouvées pour l'exploitation des services informatiques. Et ce qu'on voit dans les schémas suivants, c'est qu'en fait, que ce soit pour ITIL ou pour MOF d'ailleurs, parce qu'il y a tout un tas de liens MOF, en fait, c'est la déclinaison ITIL par Microsoft, quoi. C'est plus une question de propriété intellectuelle.
Adaptée peut-être à la plateforme, adaptée à la plateforme Microsoft.
Exactement. Mais bon, il y a vraiment des liens très forts entre les deux. Ce qu'on voit en termes de positionnement, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, c'est que si on les positionne sur une matrice saine dans laquelle on va avoir d'un côté le métier, la gestion du système d'information, au-delà de l'informatique, l'information, l'information elle-même, et la technologie, d'une part, et puis un autre axe avec la stratégie, tactique et operations, exploitation, on voit que, en fait, ITIL comme MOF vont bien sûr sur l'exploitation informatique, mais un petit peu en amont côté gestion de l'information, et également très en amont pour aller jusque à la stratégie avec, par exemple, la gestion des portefeuilles de projets qu'on va avoir dans ITIL comme dans MOF. Ces deux schémas sont issus d'un document qui est référencé ici, Cross Reference ITIL V3 and MOF 4 en franglais, qui en fait sur le site de TechNet donne un peu les liens qu'on a entre ITIL et MOF. Donc si on regarde un schéma de MOF, on va avoir en gros typiquement une notion de cycle qui reflète en fait qui reflète l'idée que les services informatiques ils vont être exploités et puis on va planifier leur upgrade, leur version N+1, leur évolution. On va les déployer, et on va les exploiter, etc., etc.
Et on va avoir un cycle d'amélioration continue des services.
Exactement, tout à fait.
Dans le temps.
Donc, il y a évidemment plein de documentation là-dessus pour expliquer un peu ces différents éléments-là. Donc, entre autres, sur la partie deliver, on voit que on a le fait de stabiliser puis de déployer. Donc, dans stabilize, on va avoir typiquement les tests de pré-prod, par exemple. Par ailleurs, on trouvera tout un ensemble de ressources en français sur ITIL, sur le site de Microsoft France, sur ce lien-là. Okay. Microsoft et la démarche ITIL, voilà exactement. Il y a tout un tas d'informations. Alors, c'est en lien avec System Center aussi qu'on verra un peu plus loin.
Donc, nous avons vu les personnes, les processus. Il nous reste la troisième partie, les technologies. Et là, c'est riche.
Oui. Effectivement, Microsoft fait quelques logiciels. J'ai pris le parti de découper la plateforme Microsoft en deux grandes parties. Mmh. Les technologies d'implémentation des applications critiques, d'une part, et puis d'autre part, les technologies de soutien aux processus eux-mêmes, soit d'exploitation, soit de développement, conception, etc.
Okay.
Projet. Donc dans la première partie technologie d'implémentation des applications critiques, là encore quelques subdivisions, l'infrastructure au-dessus de laquelle les applications s'exécutent, les logiciels qui sont eux plutôt destinés à être utilisés de façon finale, enfin après paramétrage, et puis les outils de développement des applications. Donc au niveau infrastructure, on a évidemment Windows Server, donc le système d'exploitation, avec la dernière version actuellement Windows Server 2008 R2, qui comprend pas mal de technologies importantes pour les applications, donc entre autres Hyper-V pour les machines virtuelles, NTFS pour le système de gestion de fichiers, SharePoint Foundation qui peut remplacer des systèmes de gestion de fichiers aussi.
Absolument.
Et puis IIS et Windows Server App Fabric pour la partie serveur web et serveur d'application qui sont inclus dans Windows Server. Alors,
tout ça sont des technologies qui sont incluses dans Windows Server sous forme de rôle, de features, etc. Ça
c'est exactement.
Voilà, ce ne sont pas des produits séparés, c'est tout ça Windows Server.
Exactement. Ensuite, on a On a Windows 7, donc technologie plutôt cliente. Ouais. Donc là, avec Internet Explorer, Silverlight, et puis évidemment toutes les applications riches, Windows,
tout ce qui est général, interface utilisateur.
Voilà. Donc on va couvrir avec ça des interfaces utilisateurs qui vont de l'application très riche à de l'application web la plus basique possible, comme cette page par exemple. Ensuite, on a toujours dans l'infrastructure de soutien aux applications SQL Server, donc une brique fondamentale pour les applications critiques, puisque c'est le gestionnaire de base de données relationnelle, SQL Server, qui comprend lui-même tout un tas, enfin il y a la base de données relationnelle, mais il y a également tout ce qui est Analysis Services pour la partie OLAP, SSIS pour l'ETL, donc Integration Services, Reporting Services pour les rapports, etc. On a également Bistock Server pour le serveur d'intégration de AI, de SOA, suivant les... ce à quoi on s'intéresse. Et puis Windows HPC Server, donc là pour les grilles de calcul.
Calcul technique.
Voilà. Calcul technique, et voilà. Donc voilà pour la partie infrastructure. Deuxième partie, on va avoir les logiciels qui sont destinés à être utilisés tels quels quasiment. Enfin, évidemment, oui, après une phase de paramétrage d'un an par exemple pour des ERP, mais en tout cas, c'est.
On n'est plus sur l'infrastructure pure et dure, voilà. On est sur du. C'est logiciel.
C'est ça. Donc là, on va avoir dans la gamme Dynamics en France, on va avoir NAV, donc là c'est plutôt pour les PME. Et puis également AX, donc là qui a un ERP pour les plus grands comptes. Et puis CRM, Customer Relationship Management, qui va nous permettre de mettre en place ces éléments-là. On a SharePoint qui peut être utilisé tel quel aussi.
Donc ça, ouais, pour les applications documentaires, workflow ou autre.
Voilà. Office bien sûr, donc tout ce qui est Word, PowerPoint, Excel, etc. pour la productivité, Outlook, et côté messagerie d'ailleurs, on va avoir Exchange et Link qui vont permettre d'avoir la messagerie instantanée, téléphonie, IP, etc. Et puis on a dernière brique pour la partie soutien aux applications. Les outils de développement des applications, donc là on va avoir Visual Studio et Expression pour la partie plutôt designer et Visual Studio pour la partie développeur. Donc sur ces différents ces différentes briques, on va avoir différentes caractéristiques.
Les caractéristiques qu'on a vues au début.
C'est ça, pour les applications critiques. Ouais. Donc en particulier pour la haute disponibilité. Donc là, ici on explique que si on a une application critique, c'est sans doute qu'on est dans des disponibilités de l'ordre de 99-95, par exemple, qui correspond à moins de 4h30 par an de temps pour remettre en fonctionnement des services qui sont défaillants, typiquement par des pannes matérielles ou des erreurs humaines ou des... ça suppose que les processus seuls et la bonne volonté des personnes également, ne suffiront pas pour pallier les failles matérielles qui peut y avoir.
On est à un niveau de disponibilité qui nécessite de l'automatisation d'une façon ou d'une autre,
exactement.
Soit de la redondance,
exactement.
On a besoin de technologie pour y arriver.
Exactement. Et donc, c'est là où la technologie, enfin, les différentes technologies qui permettent de s'accommoder de pannes matérielles vont être importantes. Donc, c'est ce qu'on va décrire après. Donc au niveau de Windows Server, on va, pour une application distribuée, avoir, parce qu'il y a également des mécanismes pour pallier des pannes matérielles au sein d'un serveur lui-même, mais avec Windows Server 2008 R2 en particulier, mais pour une application distribuée, on va s'appuyer principalement sur deux mécanismes de Windows Server, soit du load balancing, alors que ça peut être du load balancing logiciel qui est implémenté par Windows Server, mais également du load balancing matériel. On a couvert ça dans un épisode d'Architect qui s'appelle le load balancing LLB Fermes et Jardins.
Absolument.
Et puis, deuxième technologie importante, c'est le failover clustering, tel qu'on le retrouve avec SQL Server par exemple.
Tout à fait.
Ou Exchange.
De grands modes de mise en place de la disponibilité.
Exactement. Voilà. Et puis après, il y a des architectures spécifiques à certains produits. Donc, par exemple, dans Bistock, on a la notion de groupe qui est le fait d'avoir plusieurs serveurs qui eux-mêmes peuvent être en cluster ou en NLB, mais par ailleurs vont travailler dans un même groupe, c'est-à-dire qu'ils vont se partager du travail qui est stocké dans une base de données commune, SQL Server d'ailleurs. Et donc ça c'est un mécanisme de résilience qui permet donc d'avoir Bisto qui continue à tourner en tant que service global bien que un des serveurs puisse être tombé.
Ça, c'est un modèle qu'on retrouve dans pas mal d'applications, y compris par exemple SharePoint, ça va être le même principe, on va avoir une ferme de serveurs qui vont tous s'appuyer sur une base SQL Server centrale.
C'est ça.
On en déduit que la disponibilité de SQL Server
est assez importante,
assez critique.
Et donc effectivement, il y a un très grand nombre de mécanismes pour s'adapter aux différentes topologies dont on peut avoir, sur lesquelles on peut avoir à déployer l'application. Ouais. Par exemple, être capable d'avoir des sites distants de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, etc.
En warm standby, en hot standby, il y a différentes.
Et donc, il y a une page sur le site de Microsoft France qui décrit un peu toute la, ou sur le site de Microsoft, je ne sais plus si c'est Microsoft France, sur la haute disponibilité des SQL Server, avec entre autres une présentation. Et là, on a un schéma synoptique un peu de toutes ces technologies, donc la réplication, le database mirroring, le log shipping, le backup restore, etc. Ou évidemment le clustering qu'on retrouve ici. Donc sur SQL Server, on a effectivement tout un tas de moyens de
rendre la base disponible et puis d'en avoir des répliques.
Exactement.
C'est assez riche là, en termes de paramétrage possible.
Voilà. Et dans le cloud, là on va avoir une évolution de tous ces mécanismes où on va dire. Les API que fournit le plateforme de service qui est Azure, par exemple, mais c'est vrai aussi sur d'autres fournisseurs de cloud, ces mécanismes-là, on va avoir le plan for failure, c'est-à-dire que l'application va être capable de survivre à des pannes de serveurs virtuels parce qu'elle s'y attend.
Parce qu'on l'a conçu pour, en prenant en compte cette possibilité.
Voilà. Donc un exemple ici, c'est le mécanisme des queues dans Azure. Quand un worker role, donc toute une ferme de workers a du travail à faire, il va le récupérer dans une queue. Il consomme le message devient indisponible pour les autres. Et puis le worker l'instance va exécuter son travail et supprimer le message. Si elle ne le fait pas parce que l'instance est tombée entre-temps, dans ce cas-là, la queue elle-même va faire réapparaître le message après un certain temps, de façon à ce qu'une autre instance puisse prendre en compte ça. Donc tous ces mécanismes permettre d'avoir de la haute disponibilité sur une infrastructure qui elle-même n'est pas hautement disponible.
Et donc l'espoir c'est qu'on va pouvoir avoir une haute disponibilité, mais à un coût moindre.
Exactement.
Puisqu'on a des économies qui sont faites sur l'infrastructure.
Oui.
Bien sûr, il y a une partie de ces économies qui passent dans le développement, puisque l'application doit être conçue pour réagir à certains événements.
Mais aidée par des frameworks, des API, etc.
Bien sûr. Et avec ça, on a cette idée, et effectivement, le modèle de conception Design for Failure a peut-être une tendance à migrer du cloud sur les applications Adobe.
Exactement, et c'est par exemple un des éléments sur lequel Microsoft Consulting Services fait attention dans ses développements Adobe. C'est le fait d'être capable de prévoir justement un passage sur le cloud et même de récupérer des principes de développement du cloud à demeure dans le cas où ça a du sens. Autre caractéristique, montée en charge et performance. Donc là, évidemment, il faut distinguer la performance individuelle de chaque interaction. Donc là, c'est lié aux caractéristiques de l'application.
C'est mon temps de réponse.
Voilà.
Moi,
donc là,
c'est final.
Ouais, c'est lié aux caractéristiques de l'application, et également des différents logiciels. Donc en général, on a des ABAC ou des résultats de test qui nous permettent de voir comment réagit l'application. Et puis également une deuxième partie qui est la montée en charge, c'est-à-dire comment est-ce qu'on supporte d'avoir de plus en plus d'interactions tout en ayant peu ou pas de dégradation de la performance individuelle. Sur la partie purement montée en charge, on va avoir deux modes de montée en charge, typiquement le scale-up et le scale-out. Donc scale-up, on ajoute de la puissance à une machine, et le scale-out, on ajoute des machines. Donc le deuxième mode est en général plus efficace, puisqu'on peut le faire de façon quasiment infinie.
Plus simple, et voilà.
Sur le premier mode, par exemple sur Windows Server 2008 R2, on va pouvoir aller jusqu'à 256 processeurs logiques, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, il faudra passer sur des modes de scale-out.
Ouais, pour schématiser, on a souvent du scale-up qui est typiquement pour SQL, basé sur du cluster, et on fait grossir les machines, on va dire la configuration des machines,
oui.
Parce qu'on ne peut pas multiplier à l'infini les nœuds dans un cluster. Alors qu'on va avoir sur du 2IS serveur web, du scale-out,
oui.
Là les serveurs web étant plus ou moins stateless, on va pouvoir les multiplier à l'infini, mais presque.
Mais de plus en plus, on voit aussi les mécanismes de scale-out sur SQL Server, et en particulier, c'est très très développé sur SQL Azure. Donc on va avoir, là j'ai mis un lien sur d'informations spécifiques à SQL Server sur ce sujet, sur le site de Microsoft. Au niveau sécurité, donc évidemment il y aurait plein de choses à dire. Là pour l'instant, je me suis contenté juste de faire un lien vers la gamme Forefront, Microsoft Forefront, où on va retrouver des pare-feux, des antivirus, des anti-malware, des anti-spam, des serveurs de gestion d'identité, gestion du cycle de vie des identités, voilà. Donc la gamme Forefront,
tout ce qu'on pourra faire pour protéger l'application.
Voilà. Exactement. On va avoir ensuite, un peu dans la deuxième partie, pour toute la plateforme Microsoft, après les technologies d'implémentation des applications, on va avoir les technologies de soutien à la gestion des applications critiques. Et donc ça, on va retrouver dedans tout ce qui est soutien au processus. Donc d'une façon très générique, on a une brique de base pour la gestion des processus qui est Windows Workflow Foundation qui peut s'exécuter dans des conteneurs tels que Windows Server Fabric ou SharePoint. On va avoir de façon plus spécifique, par exemple pour le développement ou le cycle de vie applicatif, Team Foundation Server pour des processus tels que ceux qu'on a vu, MSF for Agile ou MSF for CMMI. Mais on peut avoir ses propres processus implémentés avec TFS. Donc ça c'est plutôt pour la partie conception développement. Avec Project Server et Project qui vont permettre également de suivre le projet lui-même.
Absolument.
Et puis pour la gestion de l'exploitation, on va avoir toute la gamme System Center avec System Center Operations Manager pour suivre l'application distribuée, remonter les alertes, réagir à ces alertes, etc. System Center Configuration Manager qui va permettre de déployer des applications, des patchs, de la configuration sur les différents serveurs par exemple. Les Virtual Machine Manager pour la gestion des machines virtuelles, Data Protection Manager pour les backups Restore, Orchestrator dans le cadre d'un Private Cloud pour pouvoir installer les différentes applications qui vont sur les différentes machines virtuelles. System Center Service Manager qui est plus spécifiquement dédié à l'implémentation des processus ITIL par exemple. Et puis AVI Code pour surveiller des applications, donc avec l'injection de code dans des applications .NET typiquement. Donc voilà, en gros la plateforme, donc toute la partie technologie, la plateforme Microsoft vue un peu sous l'angle Mission Critical. Donc en fin de page, on verra des annexes avec des abréviations et puis également des ressources complémentaires. Donc il y a une session des Tech Days qui parle des applications métiers critiques, donc moins sous un angle architecture et plus généralement. Donc là, c'est une session animée par IDC et dans laquelle on retrouvera également Damien Kidel qui est le responsable marketing de Mission Critical à Microsoft France. Et puis le site de Microsoft sur Mission Critical où il y a tout un ensemble d'informations également sur toute la plateforme et les applications critiques.
Merci Benjamin. C'est tout pour cette fois ?
Oui, c'est tout pour cette fois. Retrouvez tout le contenu de la page, toute cette page-là à http://missioncritical avec un tiret. .archims.fr et puis également les ressources en général sont disponibles sur
Architech, donc architech.archims.fr.
Exactement. Et c'est tout pour cette fois. Merci.
Merci.